Vous écoutez un QDM de poche, un mini-épisode sur un objet culturel à la sauce Quad Meuf, le podcast féministe et intersectionnel. Accompagnée de l'une de mes acolytes, on parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Pauline Verdusier.
C'est parti ! Bienvenue sur le tapis rouge de Quad Meuf. Cette semaine, on va parler de cinéma, période cannoise oblige. Salut Pauline.
Salut.
Alors à l'heure de l'enregistrement, on ne connaît toujours pas la Palme d'Or, mais il est bon en tout cas de mentionner que cette année, il y a eu toujours plus de femmes en sélection officielle et dans les sections parallèles cannoises. Alors Mati Diop, Céline Sciamma, Rebecca Zlotowski, Jessica Hausner, pour ne citer qu'elles. Et on se réjouit que la question des représentations soit enfin au cœur de la discussion culturelle. Il n'est pas trop tôt.
C'est clair.
Alors cette semaine, on va parler de la cinéaste Agnès Varda et de l'un de ses films quelque peu oubliés, L'une chante, l'autre pas.
Nous avons avorté, jugez-vous !
Et on en profite, on ne l'avait pas encore fait. C'est aussi l'occasion de célébrer son apport au féminisme à l'écran.
Bon ben, au fond, maintenant, 72, ça va être l'année des femmes. Il y aura 50 films sur les femmes.
Oui, alors effectivement, il était temps qu'on parle d'Agnès Varda dans ce podcast. Moi, pour la petite anecdote, j'ai très longtemps habité dans la même rue qu'elle, donc rue Daguerre, là où elle avait les studios... Enfin, les bureaux de Ciné Tamaris, donc sa maison de production. J'ai également eu la chance de l'interviewer une fois et je ne l'ai pas trouvée très sympathique, ce qui ne change rien à son talent.
Qu'est-ce qui s'est passé ? On t'a dit quoi ?
Je me souviens plus. Elle était pas très, un peu sèche, un peu revêche. Mmh. Alors, difficile de résumer une carrière aussi bien remplie que celle d'Agnès Varda, dont on sait qu'elle était la seule femme réalisatrice de la Nouvelle Vague et non pas la seule femme de la Nouvelle Vague. Et elle a développé tout au long de sa carrière un style que je qualifierais de buissonnier. Alors très jeune, elle a changé de nom, elle s'est enfuie pour bosser sur un bateau de pêche. Et c'est là qu'elle a réalisé son premier film, La Pointe Courte, qui parle de la vie d'un quartier de pêcheurs à Sète, donc en 1955.
Tu vois, c'est ici la Pointe Courte.
Tu m'en as parlé si souvent.
Et à cette époque-là, elle revendiquait vraiment une absence de cinéphilie. Elle disait qu'elle n'avait vu aucun grand film et que ça lui donnait vraiment un regard unique. D'ailleurs, elle parlait souvent de cinécriture à propos de son travail. Donc, elle a beaucoup filmé les femmes, y compris à ses débuts, les statues. On se souvient de son court-métrage sur les cariatides, qui sont des corps offerts à la rue à Paris. Il faut également rappeler qu'elle a toujours veillé à la parité dans son équipe technique, dès ses débuts.
Et le film était aussi très revendicatif sur un plan. C'était le premier film où, sur une équipe de 20 personnes, il y avait 10 hommes, 10 femmes.
Et y compris l'an dernier, à Cannes, elle s'est engagée avec le collectif 50-50 pour la parité au cinéma.
Oui, et on ne peut pas trop évoquer Agnès Varda sans parler un tout petit peu de Jacques Demy et du tandem qu'il formait. Elle était en couple avec le cinéaste, qui était aussi un homme féministe queer, gay. Donc elle lui a rendu un hommage vibrant, notamment dans un film comme Jaco de Nantes, où elle a reconstitué son enfance. Moi, c'est vraiment un de mes films préférés.
C'était notre projet, et encore plus depuis qu'on s'était retrouvés. C'était doux, c'était surprenant. On voyageait ensemble, on se posait dans une peinture, on regardait ensemble. Et patatras, Jacques est tombé malade, d'une maladie mortelle.
Avec une petite ombre au tableau, puisqu'on l'a accusé en fait d'avoir omis de parler de l'homosexualité de son compagnon, mais elle-même a dit que lui ne voulait pas que ça se sache. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose autour de ça. Et on lui a aussi reproché d'avoir invisibilisé ou omis de parler de la maladie de son compagnon qui est mort du sida.
Oui, donc c'est vrai qu'il subsiste une vraie zone d'ombre autour de l'intimité de ce couple. Mais en tout cas, pour revenir aux jalons qui nous intéressent dans sa filmographie, on peut d'abord retenir Cléo de 5 à 7, qui est un film culte à sa manière, donc qui est sorti en 1962 avec Corinne Marchand, qui est un film en noir et blanc, pendant 2 heures, presque en temps réel, suit la vie d'une jeune chanteuse assez gironde qui attend de savoir si elle a un cancer. Donc le film se focalise vraiment sur le quotidien et la déambulation. Donc on est en pleine nouvelle vague, tout est filmé dans la rue, dans le quartier de Montparnasse. Et le film dresse vraiment le portrait d'une jeune fille moderne On le voit à travers le jeu de regard, les miroirs, le jeu des apparences, le spectacle. Et donc, c'est une jeune fille qui va se découvrir. D'ailleurs, elle va enlever sa perruque, qui va découvrir sa capacité d'agir et se révéler peu à peu.
C'est donc si grave.
J'ai vu le cancer. Elle est perdue.
Si c'est ça, je me tuerais.
Et pour la petite anecdote, Madonna a failli en faire un remake.
Je savais pas, ça c'est fou. Et dans la filmographie de Agnès Varda, on se doit aussi de citer le splendide Saint-Ouen Illois avec Sandrine Bonner qui joue une manante de 18 ans qui parcourt les routes avec sa tante et son sac à dos, qui quémande de quoi manger aux inconnus et qui fait la rencontre de tout un tas de gens sur la route. Et c'est une galerie de portraits de l'univers de Varda en quelque sorte.
J'ai pris en stop une routarde, une vagabonde quoi. Tu n'as pas idée comme elle puait. Quand elle est montée dans la voiture, ça m'a suffoquée.
Et alors, je pense qu'on ne peut pas se passer d'exhumer un film qui a été quelque peu oublié de sa filmographie et des hommages qui lui ont été rendus le mois dernier, qui est à mon sens un film assez crucial et essentiel. C'est L'une chante, l'autre pas. Donc, on se souvient que Jacques Demy avait ses demoiselles de Rochefort. Et Agnès Varda aussi a ses demoiselles, mais dans un autre registre. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse de ce projet atypique ?
Oui, tout à fait. Donc au printemps 1972, Varda prépare un film sur la condition des femmes avec dans le rôle principal la comédienne Delphine Seyrig, qui était la fée de Podane, meilleure conseillère ever.
Ne vous tourmentez plus, il ne vous arrivera rien de fâcheux si vous suivez fidèlement mes conseils.
Les deux militantes féministes qui sont signataires du manifeste des 343 en 1971 se retrouvent dans le salon d'Agnès Varda pour parler de ce projet. Et l'objectif du film, c'était de briser les schémas, le racisme à l'encontre des femmes, je cite, qui les enferme dans des rôles de vierge ou de putain, de dévouée ou de garce. Donc des rôles pas très subtils. Et le film devait s'appeler Mon corps est à moi, mais il n'a jamais vu le jour et on est très triste. Mais Agnès Varda concrétisera l'idée dans L'une chante, l'autre pas. Qui est un autre film du coup sorti en 1977 et qui est consacré à la lutte pour le droit à l'avortement.
Il y avait une joie de vivre dans ce film qui accompagnait un sujet très important dont le slogan, on pourrait dire, c'est « Nous voulons des enfants désirés ».
Oui, donc effectivement, c'est une comédie musicale assez prime sautière sur l'avortement, il faut quand même oser à l'époque, qui parle notamment des avortements clandestins chez des faiseuses d'anges qui posent des sondes ou à l'étranger, donc en Suisse et aux Pays-Bas dans le film. C'est le double portrait au long cours, un double mouvement sur plusieurs saisons et sur une dizaine d'années de deux femmes, jeunes femmes, Pomme et Suzanne. L'une est assez butée, fantasque, c'est une musicienne comédienne en couple avec un Iranien. L'autre, au début du film, est accablée, elle est mère de deux enfants et va s'installer dans le sud après le suicide de son conjoint. Et chacune va tour à tour goûter à la vie conjugale et à la maternité. Il y a d'ailleurs cette phrase, le mariage ou la prostitution, c'est pareil, non ? Alors c'est vraiment un film sous influence hippie et flower power à fond, puisque Agnès Varda, on le sait, a vécu 20 ans en Californie, elle a côtoyé les Black Panthers, elle connaît par cœur la contre-culture et les comédies musicales américaines comme Hair par exemple, même si à mon sens cette ambition formelle ne se concrétise pas totalement dans le film. C'est un peu dommage, mais en tout cas, le film fourmille de chansons très drôles et engagées sur la double journée, Marie couche-toi là, ni fétiche ni boniche, voilà, avec beaucoup de bons mots. Et c'est vraiment une fiction qui incarne le féminisme de la deuxième vague, qui a un aspect très documentaire pour les personnes que ça intéresse, et qui raconte la lutte pour les droits reproductifs en France. D'ailleurs, Agnès Varda remercie au générique les groupes de femmes. L'un des personnages du film devient membre et membre très actif du planning familial. On voit aussi Gisèle Halimi, donc l'avocate, à une reconstitution du procès de Bobigny.
10 ans plus tard, Suzanne et Pauline suivaient de très près le procès d'une jeune fille de 16 ans qui avait avorté. Beaucoup de celles et de ceux qui luttaient contre la loi punissant l'avortement était venu devant le palais de justice de Bobigny, où se déroulait à huis clos le procès. C'était en octobre 1972. La jeune fille d'ailleurs fut acquittée. Ce fut le début d'une série de réformes.
Voilà, c'est vraiment un hommage assez bariolé à la sororité, avec ces phrases dites par l'un des personnages. Je me sentais mieux, j'étais acceptée dans la famille des femmes. Et cet enfant, on va le faire ensemble et l'élever en s'amusant. Un beau programme.
Bah moi, je pense que c'est mon film préféré de Varda, même si c'est pas forcément, tu l'as dit, le plus abouti formellement. Et je pense qu'en ces temps de grosse remise en question des droits à l'avortement aux États-Unis, il fait bon regarder à nouveau L'une chante, l'autre pas, pour revivre ces moments de combat féministe qui chantent leur hommage aux avorteuses. Il y a notamment la chanson sur un bateau à Amsterdam, pour l'avortement, qui a quelque chose de très tendre et de très drôle, alors que, effectivement, tu l'as dit, les thèmes du films sont quand même sombres et tristes, mais il y a une vraie note de drôlerie en fait dans tout ça qui est très agréable. Et moi, je veux aussi saluer le duo des actrices, donc Thérèse Lyotard qui joue Suzanne et Valérie Mérès qui joue Pomme. C'est un duo bouleversant. Chacune traverse des épreuves liées à leur genre et se retrouve d'une année à l'autre à une manif ou dans la maison de Suzanne dans le sud, tu l'as dit. Et elles s'écrivent des lettres entre temps. Donc pareil, on a aussi leur relation épistolaire qui transparaît dans le film, qui est très douce. Et c'est une histoire d'amitié entre femmes qui est puissante sur fond de lutte politique et qui n'oublie pas les bouleversements de l'intime, en fait. Comme tu l'as dit, on parle beaucoup des méandres de la vie conjugale, de maternité, de ce que c'est que d'avoir des enfants. On questionne la famille, notamment comme quand Pomme dit à son mari iranien Darius de lui faire un deuxième enfant, comme ça ils auront chacun le leur, parce qu'elle veut le quitter. Et c'est d'autant plus audacieux qu'à l'époque, en fait, les mouvements féministes ne s'étaient pas encore totalement appropriés le sujet de la maternité comme une matière à penser en dehors de la lutte pour la contraception et l'IVG. Et c'était plutôt une période où la maternité était renvoyée à l'asservissement. Donc on a fait tout un épisode sur la maternité que vous pouvez réécouter où on en parle. Donc là, c'était quand même assez osé parce qu'en même temps, c'est pas du tout naïf, c'est dur. Et en même temps, on parle vraiment de ces sujets-là intime et qui accompagne la vie des femmes. Donc on a cette vision du couple et des enfants puissante mais pas idéalisée, et en plus d'avoir des personnages féminins qui sont héroïques à leur manière en affrontant les épreuves de leur vie intime.
Oui, alors pour résumer, il y a vraiment un apport assez inestimable au féminisme d'Agnès Varda je pense qu'il faut absolument revisiter aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Et d'ailleurs, elle a cette phrase dans son ciné-journal Les plages d'Agnès. Elle dit « J'essayais d'être une féministe joyeuse, mais en fait, j'étais très très en colère. »
Oui, d'ailleurs, elle dit qu'elle a été en colère toute sa vie et qu'elle s'est toujours battue. Elle se définissait comme une bique entêtée. Et ça, je trouve que ça marche bien comme image. Et c'est vrai qu'elle a accompagné les luttes féministes de son temps, tout en y mêlant ses propres figures, cinéphiliques, entre guillemets, les femmes de son univers cinéphile, donc des personnages de femmes vagabondes, on l'a vu, de rêveuses, mais aussi en proie à des doutes existentiels et qu'elle fait exister pour elle et pas pour un quelconque male gaze.
Il faut déjà que les femmes que nous sommes apprennent à se reconnaître entre elles comme non compétitives, non salopes.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode long. Salut Pauline.
Salut Clémentine.
Quoi de meuf est une émission de Nouvelles Écoutes, présentée par Clémentine Gallo
et Pauline Verdusier,
réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, à la prise de son Alexandre Moniol, montage et mixage Laurie Galigani, coordination Laura Cuissard, avec l'aide de Cassandra de Carvalho.